Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'abbé. Il est certain que le sujet que je vais vous traiter ce soir n'est pas extrêmement joyeux, puisqu'il s'agit de vous parler des sectes et de la manière dont elles ont des filières dans la littérature, depuis les plus jeunes enfants jusqu'aux adolescents et aux adultes. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que cela, mais c'est un thème qui est mal connu encore, qui fait des ravages, et j'ai même eu l'occasion de me rendre compte, alors que je faisais une conférence dans un milieu où on ne soupçonnerait pas que les sectes prolifèrent, parce qu'en général, ces gens-là ont les pieds extrêmement par terre. Je signale que j'étais dans le milieu militaire, donc ce n'est pas tellement un milieu où on a tendance à décoller les pieds du sol, pour employer une expression familière. Eh bien si, même dans ce milieu-là, les sectes prolifèrent, et là il s'agissait très précisément de la Dianétique, la fameuse école de scientologie qui est honnie par les Américains, et qui se propage très bien en France. Alors on m'avait demandé de venir faire une conférence sur les sectes dans la littérature enfantine, et nous étions deux. La première personne qui passait parlait des sectes en tant que telles, et ensuite je devais passer derrière elle. Et à ma stupéfaction, je me suis aperçue que tous les thèmes qu'elle a traités, c'était exactement les mêmes que je devais traiter moi, mais appliqués à la littérature. Après, on est presque tombé dans les bras l'une de l'autre, en se disant, nous sommes bien d'accord, c'est terrible, il faut absolument se battre là-dessus. Donc, je suis venue vous faire une information, et vous montrer comment cela se passe, et vous donner des moyens d'en sortir. La première chose, évidemment, c'est de savoir comment les sectes fonctionnent. Ce après quoi, nous verrons dans un deuxième temps comment on les applique à la vie quotidienne, ou tout au moins, ce qui est mon propos de ce soir, à la littérature, depuis les livres les plus enfantins jusqu'aux livres d'adolescents, voire les livres d'adultes. En fait, comment est-ce que l'on pourrait définir une secte ? Les sectes se proposent, dans tous les cas de figure, de remplir un manque. Elles vous séduisent, et ensuite, une fois qu'elles commencent à vous envahir, elles vous font changer. Qu'est-ce que j'entends par remplir un manque ? Il est certain que lorsqu'une secte essaye de joindre des membres nouveaux, elle n'arrive pas dans un cas où la personne n'a aucune vulnérabilité, où il n'y a pas moyen de la contacter d'une façon ou d'une autre. J'en ai justement discuté avec cette dame, et on reverra ça dans les livres après. On arrive toujours vers un sujet qui est vulnérable. Alors, on peut tous être vulnérables à un moment ou à un autre. Soit on a perdu son père, ou on a perdu sa mère, on vient d'évoquer un deuil particulièrement douloureux, on a perdu la foi, on a raté un examen, ça peut être extrêmement variable, mais on est dans une période de vulnérabilité, de manque, et on demande quelque chose. Or, il se trouve que ce quelque chose, si on n'a pas une vraie foi, on ne l'a pas. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent à travers le monde et qui cherchent à recruter. C'est toujours, je me souviens qu'elle nous avait passé des photos qui avaient été prises en cachette, du recrutement des sectes, notamment parmi des jeunes. Ça va jusqu'à frapper chez vous. On savait déjà qu'il y avait les témoins de Jéhovah, mais il n'y a pas que. On a su que, etc. Alors, on se fait mettre à la porte parfois, et puis parfois, on ne se fait pas mettre à la porte. Alors, on entre, et on ne demande rien. On console. On a su qu'il vous est arrivé telle catastrophe. Or, comme la personne est vulnérable et n'a justement personne à côté d'elle, elle se confie, elle se confesse, elle s'ouvre. Et ça suffit pour une première fois. Ensuite, on revient. Et petit à petit, insensiblement, on entre. Tu devrais venir avec nous, on a bien compris, personne ne t'aime, personne ne te comprend. Viens avec nous, on va t'emmener ce soir, il y a une conférence merveilleuse, un type sensationnel. Ça peut être Moon, ça peut être n'importe qui, Joe DiMambro, par exemple. Tu vas voir. Alors on emmène cette personne, et effectivement, la personne en question, vulnérable et en état de manque, rencontre une personnalité extraordinaire, qui l'émerveille d'une certaine façon. Une fois, deux fois, trois fois. Quand on sent que le client commence à être bien entamé, on lui dit, tu sais, Joe DiMambro, ou Moon, ou n'importe qui d'autre, Dupont, t'a trouvé absolument extraordinaire. Il a vu qu'il y avait en toi des possibilités qui n'étaient pas du tout épanouies. Écoute, c'est tellement vrai que si tu veux, je te le fais rencontrer. Et c'est ce qui se produit. Et effectivement, la personne en question, je vous recommande, pour plus de précision, parce que pratiquement, je paraphrase dans certains cas ce que le livre dont je vais vous parler. Si vous pouvez vous acheter le 54e, écrit par Huguenin est paru en presse pocket, vous verrez l'histoire d'un homme qui a été contacté exactement comme je vous le dis. Alors, on fait cette rencontre merveilleuse, et l'homme en question, en général c'est un homme, vous trouve extraordinaire. Et dit à la personne qui vous a amené, de toute façon, il ne sait pas qui il est quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Dans le bouquin en question, il y en avait un qui était la réincarnation de Longin, celui qui avait donné le coup de lance au Christ. Ça peut être des gens tout à fait extravagants qui viennent du fin fond de l'Antiquité. Et finalement, une fois qu'on vous a contacté et qu'on vous a séduit de cette façon, petit à petit, on vous amène jusqu'à l'intérieur de la secte. Et là, il y a deux mouvements conjoints qui se font. Le premier, c'est qu'on vous éloigne et on vous marginalise par rapport à votre milieu ambiant. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis, parce qu'on va retrouver tout ça dans les livres. Et petit à petit, on commence à vous faire entrer dans un autre univers. Il arrive un moment où, par régime interposé, conférences interposées, peut-être des sciences occultes que je ne connais pas, on arrive petit à petit à vous transformer tellement que vous n'avez plus rien à faire dans la vie réelle et vous rentrez dans la secte. Et à ce moment-là, vous changez d'univers, vous changez de terrain, vous êtes coupé avec le réel et vous devenez quelqu'un d'autre, ce que l'on vous a dit que vous étiez sans le savoir. Et en général, ça se termine dans la famine, la misère, la pauvreté, voire la mort, si ce n'est le suicide ou l'assassinat. C'est en général et rapidement la filière habituelle des sectes. Il s'agit donc de remplir un manque, de séduire, ensuite de surévaluer, de faire changer le personnage de terrain et finalement de proposer une pseudo-spiritualité. Un catholique qui est bien étayé, qui suit bien la liturgie, qui est bien nourri des sacrements, à mon sens, ne devrait jamais tomber là-dedans. J'en ai jamais entendu parler. Ce sont en général des gens qui ne sont pas défendus, justement, dont l'âme est dénourrie. Mais c'est la filière habituelle. Alors, comment peut-on, à partir d'une pareille technique, infiltrer ça dans des méthodes littéraires? Mais si, c'est faisable. Parce que, de toute façon, si on part du point numéro 1, remplir un manque, arriver à un moment vulnérable, est-ce que c'est pas un moment délicieusement vulnérable que le moment où on s'assoit enfin quelque part avec un bon livre, ou supposé tel? C'est charmant. On s'ouvre, on change de terrain, on n'est plus là. Rappelez-vous, lorsque nous étions enfants, quelquefois, on avait un livre, on nous appelait, on ne répondait pas. On était tellement entré dans le livre qu'on n'était plus sur terre. Alors, arrivé dans un livre, l'enfant ne le sait pas, lui, qui vient d'être contacté. Il a dans les mains un livre. Et il ne sait pas qu'on va essayer de le séduire. On est toujours séduit, sinon on change de livre. On ne peut pas non plus lui faire savoir, et il ne le sait pas lui-même d'ailleurs, qu'on va le séduire selon son âge mental. Ça aussi, c'est une des particularités de la littérature, c'est qu'on ne vous séduit pas globalement. J'ai été autrefois critique littéraire dans les années 60, au tout début, où on commençait, c'était les tout débuts balbutiements de la critique littéraire enfantine. J'étais critique littéraire à l'Action catholique générale féminine, à la tête des 4000 bibliothèques pour tous. Or, il est certain que nous avions de très bonnes idées extrêmement généreuses, à savoir que nous voulions des bibliothèques avec des bons livres. Et nous étions là pour ça. En revanche, nous avons pu voir à l'époque des directrices de collection qui sont venues nous voir, et on s'est rendu compte également qu'elles avaient des idées toutes autres. Elles avaient des idées nettement d'éducation à travers les livres, chose que nous ne connaissions pas, étant restées, selon nos études, à l'entrée en matière, au corps des sujets et à la conclusion. Bon, ça, c'était la formule extérieure, c'était le premier niveau, le premier degré. Le deuxième degré, on y pensait beaucoup moins. Elles y pensaient beaucoup plus. Et je me souviens notamment de la première chose qui m'avait fait franchement tiquer, c'était une maquette de livre qu'on nous avait apportée. Et il se trouve que mon père étant britannique, pour moi, un home, c'est quelque chose de bien particulier. Et une maison française, la maison, c'est pas du tout monté de la même façon. Alors il y avait, sur la même page, un home et une maison, deux maisons exactement pareilles, mais c'était en anglais à gauche et en français à droite. Alors j'ai réagi en disant, mais ça va pas madame ça, le home ça n'a rien à voir avec la maison, c'est une erreur complète. Elle m'a répondu, mais pas du tout, c'est fait exprès, c'est pour leur apprendre la planification. Pas de différence entre le home et la maison. Là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses qui se passaient derrière les lignes que je n'avais pas connues, que je ne connaissais pas et que j'allais apprendre. Et j'en ai appris beaucoup. J'ai appris notamment une chose qui relève tout simplement de la psychologie enfantine. Mais mon Dieu, c'est un métier comme un autre et tout le monde n'est pas obligé de faire de la psychologie enfantine. Mais j'ai appris que on essayait à l'époque, et nous sommes en 97, il y a longtemps que c'est fini, de faire le portrait robot d'une cervelle d'enfant. Alors, on nous a appris que ça marchait de 2 ans en 2 ans. Il y avait 6-8 ans, il y avait 8-10 ans, il y avait 10-12 ans, et il y avait 14-16 ans. C'est après quoi on passe à la littérature pour adultes. Or, la grille était bien faite. Il y avait le portrait psychologique de ce que l'enfant demande entre 6 et 8, 8 et 10, 10 et 12, etc. Notamment, entre 6 et 8, c'était l'amitié. Entre 8 et 10, c'était l'aventure à base d'amitié. Entre 10 et 12, c'était déjà commencer à comprendre le monde, parce que on allait bientôt, et c'était quelquefois fait, être pubère. Et à ce moment-là, à partir de 12 ans, les goûts changent. Les garçons veulent des livres de garçons qui expliquent la vie, et les filles tombent très facilement dans les livres d'infirmières, les histoires tendres de très jolis dévouements. Je ne me moque pas, c'est très joli. Mais c'est la bifurcation. Mais là, on était, si vous voulez, dans les âges de lecture, et on était en quelque sorte dans une première approche de l'éducation des enfants qui essayait, je pense, dans beaucoup de cas, d'être honnête. Là, mon propos n'est pas le même. Mon propos est de vous montrer qu'à partir d'une connaissance technique bien approfondie, on peut parfaitement, dès le plus tendre moment, arriver à susciter aux enfants, susciter, susurrer et finalement enfoncer bien profond dans la tête que la secte, c'est la vie normale. Comment va-t-on s'y prendre? On avait dit, un, il faut remplir un vide, arriver à un moment vulnérable. Deux, on a dit, le moment vulnérable, c'est le moment où on est tout sage dans un coin avec un beau livre. Ça peut aussi être sur les genoux d'une bonne charmante grand-mère ou d'une maman qui n'y voit que du feu, la pauvre, parce que c'est pas son métier d'être psychologue et qu'elle a autre chose à faire que d'aller chercher en psychiatrie les complications du cerveau humain et qui va lui lire une histoire absolument ravissante en ne se rendant pas du tout compte où elle va. Je disais que dans un premier temps, on séduit, dans un deuxième temps, on surévalue et dans un troisième temps, on fait changer de terrain. Voici un livre qui est absolument ravissant, c'est ce que j'appelle un ravissant mauvais livre. Ça s'appelle « L'oiseau de paradis » et je ne vais certainement pas, me priver du plaisir de vous lire cette histoire. Vous allez voir ce que je veux dire. Après, on en fera une petite étude rapide ensemble. Donc, nous sommes dans un paysage extrêmement joli, mais extrêmement vide. Et les enfants n'aiment pas ça, le vide. Ça pourrait être Guérande, avec les marais salants. C'est gracieux, c'est gris bleuté, c'est profond. Et l'enfant est seul. Simon suivit le chemin de la mer. Les derniers jardins qui longea étaient doux, silencieux et tristes. Simon se souvenait d'un petit garçon qu'il avait vu jouer tout seul dans un de ses jardins l'été d'avant, et à qui il aurait volontiers parlé s'il avait osé, mais il n'avait pas osé. Il s'était contenté de sourire à l'enfant indifférent. Puis il avait couru vers la mer, étrangement bouleversé et peiné. Depuis, les volets des maisons étaient clos et les jardins vides et silencieux. Les oiseaux eux-mêmes les avaient abandonnés. Quand la mer apparut, Simon s'immobilisa au sommet de la plus haute dune, émerveillé. Elle était grise, couleur d'ardoise, et la grève, couleur de cendre, désertée. Simon s'avança. Le vent gémissait en rafale, portait jusqu'à l'enfant le chahut intermittent des vagues. Devant lui, plusieurs mouettes s'élevèrent, profitant d'un courant ascendant pour se laisser happer par l'infini du ciel. À mesure que Simon se rapprochait de la mer, le grondement de l'eau battait à ses oreilles comme un tambour et faisait naître en lui un sentiment confus où la peur et l'excitation se succédaient. Il est seul, il est vulnérable, il est dans un moment d'ouverture complète. Et qu'est-ce qui va arriver? Le petit héros qui va mener l'histoire. Le petit héros en question est un ravissant petit oiseau blanc qu'on n'a jamais vu nulle part. Or, ce petit garçon, Simon, prend l'oiseau, le ramène chez lui, l'oiseau se laisse faire, et il y avait un petit garçon avec qui il parlait de temps en temps, À qui il dit, j'ai trouvé un oiseau extraordinaire, est-ce que tu peux pas me trouver dans le dictionnaire qui c'est ? Impossible, inclassable. Alors Simon met le petit oiseau au grenier, et ça devient son ami, parce que Simon est triste. Il est en période vulnérable, son père va avoir quoi ? Vraisemblablement, il va être au chômage. Alors le soir, dans les assiettes, on entend la cuillère au fond, et personne ne parle. Alors Simon se confie à l'oiseau. Et l'oiseau semble comprendre. Et dès l'instant que l'oiseau a su que Simon avait son père qui risquait d'être au chômage, dans les 48 heures ou presque, tout va très bien, l'usine est reconstituée, le père ne perdra plus son travail et tout va très bien. Ça, ça lui paraît drôle, Simon. Et puis un jour, il revient au grenier, là où était son petit oiseau, et il s'aperçoit que l'oiseau n'y est plus. Il n'y a qu'une solution, et c'est la seule, et c'est effectivement la bonne. Son père a vendu l'oiseau à l'oiseleur du village voisin. Alors il est au 400 coups, il prévient le petit ami à qui il parlait parfois, et l'autre lui dit, bon, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va aller tous les deux chez l'oiseleur, là, hein. Alors moi, je vais faire semblant d'acheter la plus grosse cage, pendant ce temps-là, tu vas chercher l'oiseau, ni vu ni connu, tu ouvres la cage, tu prends l'oiseau et tu rentres, et puis voilà, c'est tout. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais il y a une suite. L'oiseau, une fois réintégré dans son grenier, change d'attitude. Et à très peu de temps de là, il lui fait signe, suis-moi, suis-moi. Alors Simon suit l'oiseau, et l'oiseau lui fait signe, viens avec moi, viens avec moi. Simon se mit debout. L'oiseau se percha sur son épaule et siffla un air magnifique. C'était la première fois que l'oiseau chantait pour Simon. Et Simon sentait son cœur battre, prêt à exploser. Ensuite, l'oiseau vola jusqu'à terre et sautilla en direction du rivage. L'enfant marcha derrière lui. Il faisait si chaud maintenant que Simon abandonna un à un ses vêtements sur le sable. Des pensées mortes sortaient de son esprit. D'autres nouvelles y pénétraient. Il sentait bien que quelque chose de mystérieux se préparait. Il ne savait pas quoi. Faisait confiance à l'oiseau, comme l'oiseau lui avait fait confiance la première fois sur la plage. Lorsqu'ils atteignirent au bord de l'eau, l'oiseau prit son envol et Simon s'arrêta. Les vagues qui s'étiraient jusqu'à lui étaient si douces, si tièdes, que l'enfant s'y trempa, riant de bonheur. L'oiseau s'était remis à chanter, un autre chant cette fois, qui rappelait à Simon les chants qui montent des églises les jours de noces. Comme l'oiseau s'éloignait maintenant droit vers le large, l'enfant, pour suivre son chant, s'éloigna lui aussi de la plage, de la ville, où le tonnerre avait commencé de gronder. Jamais Simon n'avait ressenti aussi fort la joie d'exister. Jamais il n'avait regardé le ciel, la mer, les couleurs du sable aussi bien que ce soir-là. C'était pourtant le même paysage. Mais entre ce paysage et lui, entre tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il respirait, et lui-même, il lui semblait qu'un grand voile s'était déchiré, que de la lumière neuve arrivait de partout, et qu'il devenait en même temps plus libre et plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Et il sentit des larmes lui piquer des yeux, et il pensa à toutes ces choses qu'il allait pouvoir faire, maintenant que l'oiseau lui avait montré qui il était. Quand Simon marcha vers le point que son ami lui indiquait, qu'il traversa le toit de la mer, il découvrit, comme dans ses rêves d'autrefois, un monde plein de couleurs et de musique, comme un grand champ illuminé sous la lune et des fontaines s'éclaboussant. Il vit aussi, dressés sur des fleurs gigantesques, des centaines d'oiseaux de paradis qui lui faisaient escorte. Et il entre dans l'eau et on se demande s'il va en ressortir. Ravissant mauvais livre, conte exquis, New Age. 1. Je suis seule. 2. Je suis contactée. 3. Cette personne devient mon ami et mes confidents parce que papa et maman ne me comprennent pas, ils ont autre chose à faire. Papa risque d'être au chômage. On m'enlève mon soutien. J'hurle. Je recherche mon soutien. À partir de ce moment-là, je lui appartiens. Et ce qu'il me dit, je le fais. Je le suis. J'entre. Je deviens quelqu'un d'autre. J'ai bien appuyé sur la chose. Il m'a montré qui j'étais. J'entre dans la mer derrière lui. Je vous rappelle que les enfants ont un immense sens de l'imitation. En plus, c'est bleu comme le grand bleu. Ravissant mauvais livre, qui a dû se vendre comme des petits pains pour Noël. C'est pas très visible, cette subversion-là. Pour ne pas dire que c'est pas visible du tout, dans la plupart des cas. Donc, on va habituer l'enfant par plusieurs thèmes qui reviennent dans des endroits différents, dans des thèmes différents, dans des livres différents, à des âges différents, à ce que la vraie vie, c'est pas ici, c'est ailleurs. On n'y arrive pas tout seul, on y arrive aidé par quelqu'un. Et ce quelqu'un vous montre qui vous êtes. Ici, c'est un autre thème, un ravissant mauvais livre, Le Cheval du Ciel. Ici, c'est très intelligent parce que ça calque les contes chinois. Alors là, il y a un vieux sage qui, un jour, les images sont radieuses, les couleurs, les formes, tout y est. Le bleu, le rose, le tendre, le suave, l'élégance du dessin, le charme de l'histoire. Un jour, cette fois-là, il y avait un vieux sage qui est allé dire à l'empereur un conte. Et il y avait un jeune homme très réaliste dans le village qui voulait savoir si ce conte était vrai. Alors il part. Et au fil de l'histoire, il y a un moment de brouillage, exactement comme ici, et tout d'un coup, la réalité s'efface, et c'est le rêve qui devient réalité. C'est-à-dire qu'il passe de la réalité au rêve. Il se rencontre. Et c'est la réalité, c'est le rêve qui influe sur la réalité, et tout ce qui a été dit dans le conte se fait ensuite dans la réalité qui a rejoint le rêve. Et quand on n'avait encore pas compris, à ce moment-là, vous avez à la fin la conclusion de l'histoire, qui est ceci. Ça, c'est extrêmement malhabile, mais c'est très bien pour moi. « Je raconterai votre bonheur à tous les habitants de la vallée, » chanta l'impératrice. « Et n'oubliez jamais que vous devez croire en vos rêves. » 5 ans. La vie ne commence pas dans le réel. C'est le rêve qui influe sur la réalité. Et vous, les petits-enfants, qui êtes tellement fins, qui aimez tellement les belles histoires, n'oubliez jamais la leçon, que ça rentre. On devient autre quand on a rencontré autre chose. Et là, le point de communication, c'est le vieux mage. On peut très bien aussi utiliser des choses très charmantes et très humbles, et que nous avons connues, mais en rajoutant un petit quelque chose. Peut-être que vous connaissez cette très jolie comptine, Poulette Douillette. C'était l'histoire de cette poule qui, un jour, faisait la sieste sous un pommier lorsqu'une pomme pourrie lui tomba sur la tête. Elle poussa un grand cri et dit « Un morceau de ciel est tombé sur moi, je dois aller le dire au roi. » Et aussitôt, Poulette Douillette se précipita pour s'en aller trouver le roi. Et elle rencontre sur son chemin Cocorico Saut, Cancanicanois, etc., etc., etc. Et à la fin, on rencontre le renard. Le renard veut les manger, et à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Poulette Douillette, etc., etc. Le roi leur tendit la main et doucement leur demanda « Qu'attendez-vous de moi ?» Et voilà deux beaux yeux qui vous fixent bien droit dans l'œil. Et à la fin, Poulette Douillette va voir que le renard veut la manger. C'est épouvantable. C'est tellement épouvantable qu'elle se réveille. C'est alors que Poulette Douillette ouvrit l'œil, plus tremblante qu'un écureuil. « J'ai cru voir Renard Roublard, mais ce n'était qu'un cauchemar. » Alors là, ça c'est très subtil. Réveil du cauchemar. Tout tourne dans sa tête, y compris les yeux qui la regardent. Et en, ça s'arrêterait là? Non, ça ne s'arrête pas là. La suite, c'est très bien. La suite, c'est que, au moment où il disait cela, une pomme se détacha et lui tomba sur la tête. « Un morceau de ciel est tombé sur moi. Je dois aller le dire au roi !» s'écria Poulette Douillette, jolie avec son chapeau pourri. Autrement dit, c'est une histoire sans fin. Alors, ça commence comme ça, ça finit dans le rêve, et de du rêve, on repasse à la réalité. Et de trois, sous des thèmes, des formes, des couleurs, des histoires, et des âges relativement similaires, mais des manières d'approche différentes. Vulnérabilité, on s'ouvre parce que c'est beau, on s'amuse parce que c'est charmant, on enfonce dans le livre parce que c'est ravissant, et à la fin, vous avez la leçon. C'est pas dogmatique, c'est pas dit. Mais on vous a introduit dans un univers. Ça, c'est très important. Je pourrais continuer avec un livre dont je parlais tout à l'heure. Je donne les références parce que, je vous préviens, c'est pas très agréable à lire. Je dirais même que je vous le conseille pas, mais c'est pour vous montrer que je ne vous raconte pas des histoires que j'invente. Il y a un livre qui a été écrit par un certain Antonio Horowitz, qui a d'ailleurs infiniment de talent, et qui s'appelle « Les portes du diable ». Et c'est l'histoire de comment, grâce à un savant fou et à une sorcière extrêmement méchante, on va pouvoir, en faisant la fission nucléaire, et à l'intérieur d'une messe noire par la même occasion, rouvrir les portes du diable et faire revenir ce qui est appelé dans le livre « les anciens ». Or, il se trouve qu'il y a un garçon qui est enlevé, qui a 15 ans, à qui on fait vivre une aventure extraordinaire que je n'ai pas le temps de vous raconter. Alors, on voit les préparatifs, la croix à l'envers, la table du sacrifice, et tout y est. Et quand il rentre dans le cercle, il y a pas moyen parce qu'il est un des cinq qui a le don. Le don, on ne sait pas lequel. Mais pour un enfant, hein, il y a des gens qui ont le don, on ne peut pas leur faire ça. En plus, l'aventure est tout à fait extraordinaire et il va s'en tirer. Et il va raconter cette histoire-là à un journaliste, lequel journaliste va nous raconter l'histoire. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est pour vous montrer qu'il y a un autre moyen d'intéresser les gens à des choses extraordinaires, c'est de leur faire vivre des aventures fabuleuses en les surévaluant. Tu es un des cinq qui a le don, et en les envoyant vers des univers extrêmement dangereux. Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode aussi pour séduire, pour entrer et pour entraîner vers, c'est la méthode du rire. La méthode du rire, elle est extrêmement habile parce que, comme on dit en Afrique, quand tu as fait rire quelqu'un, tu as gagné. Et c'est vrai. Quand on a ri de quelque chose, c'est beaucoup moins grave. Or, j'ai ici un livre dont la détermination, ou plutôt la définition dans le libellé était tellement charmante que je me suis dit, il nous faut ça, ça va beaucoup amuser les enfants. Ça s'appelle « Je suis un chien ». Il faut remarquer qu'il y a une laisse. Hein. Alors, ça commence « Je suis un chien ». Ensuite, « Je ne suis plus un chien, mais je suis un livre ». Mais tu vois bien que je suis un chien puisque je remue de la queue. J'essaye de ne pas vous faire rire parce que je ne tiens pas à ce que vous trouviez ça bien. Ensuite, « Ouah, ouah, je suis bien un chien puisque j'aboie ». Ensuite, un jour que je coursais un lapin, je me suis trouvé sous le terrain de la sorcière. Alors celle-là, c'est une vraie. Chapeau, vilainie et tout. Et elle m'a transformé en berger allemand. C'est là où on commence à rire. Très habile parce que ça fait passer la sorcière. Berger allemand, non, pas comme celui-là. Pas un berger allemand comme ça. Un berger allemand, un allemand berger. Mais il est toujours un chien et il rêve d'os. Alors il y a une fée qui tombe amoureuse de lui. Et quand il veut l'embrasser, il l'allèche, il lui donne un grand coup de langue, puisque c'est un chien. Alors elle prend ça très mal et elle le transforme en crapaud. Mais il rêve toujours d'os. Et finalement, de fil en aiguille, je ne suis pas un berger, je ne suis pas un gros crapaud, et je ne suis pas non plus un livre, on ne sait toujours pas qui il est. J'adore rester sur les genoux, ça, j'adore, c'est trop, hein, c'est réservé à Dieu, ça. Mais je voudrais que tu me caresses et pas seulement que tu tournes mes pages. Ça, je ne vous le conseille pas forcément. Et finalement, à propos de toutes sortes de choses, si tu oublies de me sortir, je te promets de ne jamais faire de saleté sur le tapis. Crois-moi, je suis un chien. Je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien. En toutes lettres. Alors, c'est un chien, c'est un livre, c'est un berger allemand. Mais ce n'est pas un berger allemand. Il ne rêve que d'os, mais il a une corde d'homme, bon, etc. Si tu veux bien que je sois ton chien, je te raconterai mon histoire toutes les fois que tu le désireras. Et si tu veux, tu peux m'emmener en classe. Alors, voilà un chien qui a... Voilà. C'est extrêmement drôle. Il y a plusieurs thèmes superposés. Et je ne sais pas si vous remarquez que ce n'est pas grave du tout d'avoir un livre qui peut être ensorcelé. Rassurez-vous, il y a du sel béni dessus. Hein. Bon, non, mais je vous le dis à tout hasard. C'est malin, ça, parce que c'est très drôle. Et je vous parie que ça va être acheté comme des petits pains pour Noël. Donc, quand je dis séduire, je prouve. On peut séduire à des choses qui sont extrêmement mauvaises avec des moyens qui sont extrêmement charmants. Quand les enfants petits ont été introduits, séduits, attirés dans ces domaines, il y a une éducation invisible qui se fait dont ils ne sont même pas conscients eux-mêmes et vous non plus. Parce qu'ils en auront eu un ici, un par là, ils en auront eu un à l'école, ils auront vu un des copains, ils auront vu ça chez leur cousin, chez leur oncle. Mais c'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. De même que nous, on a lu la comtesse de Ségur, la comtesse de Ségur, la comtesse de Ségur. Eux, ils ont eu des histoires comme ça. Ou ils ont eu autre chose, mais ils ont eu ça aussi. Donc, on est désensibilisé. C'est pas méchant, quoi. C'est beau ou c'est drôle. Bon, c'est pas grave, du moment que c'est beau ou que c'est drôle. Mais, il y a une progression. Une fois qu'on est entré dans cet univers, on a déjà habitué l'enfant tout petit à changer de terrain. Il y a un film, d'ailleurs, qui vient de sortir, je crois, qui est sur le même thème. Ça s'appelle « Messieurs les enfants ». Je crois que ce sont des enfants qui deviennent leurs parents et les parents qui deviennent les enfants et de ce qu'il s'ensuit. Je ne l'ai pas vu, hein, mais je crois que c'est ça le thème. Alors, quand on a pris cette habitude, dès les premières images, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, si un jour on vous apporte un livre qui s'appelle plus ou moins science-fiction, pourquoi pas? On est déjà habitué. Alors on se lance dans la science-fiction. Et là, on commence à entrer dans le volet numéro 3, à se faire surévaluer. Remplir un manque, séduire, surévaluer. Surévaluer comment? on peut vous expliquer dans un livre qu'il n'y a que vous qui êtes capable de faire ça. Or, je vous ferai remarquer que ces livres calquent non seulement les goûts des enfants, peut-être pas forcément par période vraiment de 2 ans, mais mettons par période de 4 ans, puisque de toute façon, il n'est pas question de contenter un enfant. Il est conscient de l'emmener sur un autre terrain, et sans qu'il le sente, et sans qu'il le sache, sans que ça fasse mal, et sans que vous soyez au courant. Il faut que ce soit, bien sûr, le plus secret possible, pour que ça marche. Quand on en arrive à cet endroit-là, l'enfant a déjà été à l'école. L'école, c'est variable. Quand on est dans une bonne école, peut-être que ça leur plaît. Quand c'est dans une école où on s'ennuie mortellement, il y a un phénomène bien connu qui se produit. Celui qui était le fils de papa et maman tente à devenir d'eux, il est élève, et puis il est à la fois le fils de papa et maman. Mais c'est l'élève qui travaille, et le fils de papa et maman, quand il rentre, il faut qu'il se lave les mains, il faut qu'il se mette en pyjama, ou il fait pas la prière du soir. Comme me disait quelqu'un tout à l'heure, il n'est pas forcément baptisé d'ailleurs, ce qui n'arrange absolument rien. Et à ce moment-là, il n'est pas heureux. Parce qu'on ne lui a pas dit pour quelle raison il va à l'école, ce serait important de leur dire. Il s'y ennuie et il ne fait travailler que certaines facultés. La faculté d'écoute, la faculté de mémoriser, la faculté de retenir, mais l'initiative, le courage, l'aventure, surtout si c'est un garçon. Les merveilles, l'émerveillement de la vie, il n'y en a pas. C'est presque métro, boulot, dodo. Alors un jour, il tombe dans une librairie, sur un livre qui a une drôle de physionomie, très étrange. Et qu'est-ce qu'il lit sur le côté? Un livre dont tu es le héros. Ça, il ne peut pas le savoir, mais ça fait tilt. Parce qu'il est le héros de personne. Il est le petit de papa et maman. Il est l'élève de la maîtresse. Il n'a jamais le droit de dire qu'il est lui, sauf s'il est bon catholique, qui va à la messe et qu'il a déjà une vie spirituelle. Mais les autres sont absolument pris, parce que là, il y a un manque. Ils ne sont le héros de rien. Alors, Élise, derrière, tu vas pouvoir te battre. Tiens, c'est nouveau, ça. Mais attention, si tu n'arrives pas à vaincre, si tu es vaincu, tant pis pour toi. Après tout, le jeu en vaut la chandelle. Alors, en plus, il se retrouve dans une situation extraordinaire, où on sort complètement de l'époque. On se retrouve avec une hallebarde si on veut. C'est bien, on a le droit de choisir. On peut prendre l'armure si on veut. C'est bien, on a le droit de choisir là aussi. On peut y aller à cheval, on peut y aller à pied. On peut aussi changer d'avis. Se dire, c'est pas une bonne tactique. Je retourne en arrière, page 42. À ce moment-là, je prends la potion de la sorcière. Je deviens invulnérable et je me bats avec l'araignée géante qui m'attend là-bas dans le donjon, etc., etc. Le seul malheur, c'est que la plupart de ces jeux, on ne peut pas en sortir vivant parce que ce n'est pas fait pour ça. Alors, dans un premier temps, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? On a affaire à un enfant qui a un manque. Il n'est le héros de rien et il n'y a pas d'initiative. Dans un deuxième temps, on l'envoie dans un univers où, soi-disant, on va enfin lui laisser la liberté. Dans un troisième temps, on l'envoie aussi dans un univers où il est déstabilisé. On l'a surévalué en lui disant qu'il était capable de faire quelque chose, et en réalité, il n'est pas capable de faire ce quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il est cassé une deuxième fois. La première fois, ça ne lui plaisait pas, dans la plupart des cas, d'aller à l'école. Et la deuxième fois, on lui a promis quelque chose qu'on lui a enlevé à la dernière minute. En plus, il est complètement affolé, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe en lui. On l'a envoyé dans un univers dont il ne peut pas redescendre. Et là, je donne une référence sûre. J'étais il y a 2 ans chez la Benelli à Marseille. J'avais dans la salle, et je mourais de peur, un psychiatre, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire à la fin? Et il est venu vers moi, et ça y est. Il m'a dit, madame, je vous remercie, parce que les enfants qui ont lu ces livres, moi je les vois ensuite dans mon cabinet, et je les vois en état de délire. Et ils ne redescendent pas. Ils ne redescendent pas parce qu'ils ont été cassés 2 fois. Mais ils ne comprennent pas la manipulation de leur cerveau. Eh bien, c'est exactement, mais exactement, le même processus, je vous ferai remarquer, que ce que je vous ai annoncé à propos du travail des sectes. 1. On arrive vers un enfant vulnérable, ou un adulte vulnérable. 2. On le fait semblant de le séduire et de le consoler. 3. En même temps, on le fait changer de terrain. 4. On le marginalise par rapport au réel. Et 5. Une fois qu'il est dans cet univers dont il ne peut plus sortir, parce qu'il n'a plus de famille, il n'a plus d'amis, j'oserais dire qu'on l'achève. Ça, ce sont les filières des méthodes des sectes dans la littérature enfantine, dans la littérature d'adolescents et même dans la littérature d'adultes. Je ne voudrais pas vous désespérer parce que, rassurez-vous, il n'y a pas que ça, heureusement. Sinon, je ne serais pas ici. Mais c'est une chose que l'on connaît très mal. C'est une chose qui est extrêmement dangereuse parce que dans la mesure où ça n'est pas clair, on ne sait pas où on met les pieds, et dans la mesure où on ne sait pas où on met les pieds, on est tout à fait bon pour se faire, comme on dit vulgairement, avoir. Et les enfants se font terriblement avoir. Vous ne pouvez pas être au courant de tout, vous ne pouvez pas à la fois être tout ce que vous êtes, et en plus avoir un doctorat en psychologie de jeunesse, ou savoir comment psychologiquement on peut démonter un enfant sans avoir l'air d'y toucher. Mais c'est pourtant exactement ce qui se passe. Il n'y a pas que ces thèmes-là, heureusement. Il y a encore de très beaux livres, je vois ici M. Curis qui nous a sorti d'excellents bouquins, heureusement, il y en a d'autres, et je vous conseille fortement de les acheter, mais il y a un autre problème. C'est que les enfants sont de notre époque. Et c'est un des problèmes de la tradition d'avoir des enfants qui soient des bons chrétiens et qui soient quand même, si vous voulez, armés lorsqu'ils vont entrer dans la vie civile. Ça se prépare dès l'enfance. Et moi, je vois autour de moi des mères de famille avec qui je discute, c'est un problème général. Comment avoir 2, 3, 4, 5, 6 enfants? Ils ne sont pas toujours, parce qu'on ne peut pas toujours les avoir dans les écoles de Mgr Lefebvre. Ils sont avec des enfants impossibles et ils sont mal dans leur peau, ils ne savent plus. Quand ils sont petits, ça va parce qu'il y a papa et maman. Mais c'est très difficile d'être à la fois un excellent catholique et d'être, comment dirais-je, de ce monde sans en être, selon la formule de l'Évangile. Or, il n'y a quand même pas que ça. Il y a d'excellents documentaires. Il y a des petits livres à 35 francs qui ont des histoires qui ne sont pas éducatives, mais qui sont charmantes, qui sont récréantes, qui sont agréables, qui ne ruinent pas, et qui sont, avec des illustrations modernes, possibles. Je viens de recevoir, il y a 2 jours, une très charmante réédition du Petit Chaperon Rouge, dans des images extrêmement modernes, d'une fraîcheur délicieuse. Je viens de recevoir une histoire de nounours absolument charmante, et je reçois aussi pas mal de livres que je ne voudrais pas avoir, mais je les ai quand même, et que je suis obligée de jeter, mais il y en a qui sont tout à fait charmants et jolis. Alors, je ne voudrais absolument pas avoir l'air de vous passer ma mouture, mais il est certain que ce remède, car j'appelle ça un remède qui s'appelle « Plaisir de lire » et que j'ai fait il y a 31 ans, vous donne, à mon avis, les possibilités d'en sortir. En ce sens que lorsque nous avons commencé en 1966, c'était assez charmant d'ailleurs, c'était dans un congrès de Lausanne, et je me rendais compte que ça n'allait plus du tout à la CGF, ils étaient complètement libéraux. On leur avait expliqué ça, il y avait 300 personnes dans la salle. On leur avait dit, écoutez, voilà ce qui se passe dans vos livres d'enfants, déjà, c'était bien moins grave que maintenant. Ceux qui veulent éventuellement qu'on leur donne un coup de main et qu'on leur fasse une levée, levez le doigt. Alors, ils ont tous levé le doigt, et quand on est rentré à Paris, on s'est trouvé devant le fait accompli en se disant, ben, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on leur fait? Et au début, c'était un tout petit machin comme ça. D'ailleurs, j'en vois ici dans la salle qui les ont connus depuis le début. Et en fait, on a grandi avec notre public. Parce qu'au fur et à mesure que les enfants grandissaient, les gens nous aimaient dire, c'est très joli. Maintenant, ils sont en première, qu'est-ce que je leur donne? Maintenant, ils sont à l'université, qu'est-ce que je leur donne? Donc, nous avons amélioré, si je puis dire, nos rubriques pour améliorer le service. Étant donné que la subversion s'avançant et s'affinant, il était normal que nous nous avancions et que nous nous affinions aussi. Je vous en ai apporté ici quelques exemplaires pour ceux qui voudraient s'abonner. Et en fin, et ça plaît beaucoup, je le sais, on s'est dit, on nous fait entrer en Europe, très bien. Où va notre culture française? On va nous passer absolument au marteau-pilon. Alors nous avons inventé une rubrique qui s'appelle le dossier, où nous parlons des provinces, on en est au troisième, on en a fait un sur la Lorraine, on en a fait un sur le Languedoc, et ce numéro-ci, c'est la Provence. Et on essaye de relier les notions les unes avec les autres, comme faisaient les catholiques d'autrefois. Samedi, j'entendais la leçon inaugurale de l'Institut Saint-Pidis, où l'abbé Laurence nous disait que la culture catholique, c'est comme une cathédrale où chaque chose est à sa place. Je pourrais en dire autant pour le dossier. On vous parle des saints qui sont oubliés, parce que les autres, vous les connaissez. On vous parle de l'architecture et on vous parle de la beauté de certaines œuvres d'art. On vous parle d'auteurs oubliés. Ici, il s'agit de Mistral, que certains connaissent, mais pas tout le monde. Et un qui est beaucoup plus oublié, qui est Paul Arène. Et on a choisi un texte et qui montre une religieuse qui se fait couper le cou sous la Révolution d'une façon absolument admirable, qui est vraiment, c'est très très touchant. Et on s'aperçoit nous-mêmes en faisant nos dossiers, parce que c'est quand même une recherche, que même nous qui sommes catholiques, il y a des quantités de choses que nous ne savons pas sur nos provinces et que notre culture catholique a été absolument tronquée. Moi, je vous avoue humblement que pour moi, la Lorraine, c'était resté le bassin où il y a le Rhin. Ben, on est loin de compte. Il y a beaucoup d'autres choses. Bon, Jeanne d'Arc, bien évidemment, il y a énormément de choses. Il y avait un métier ravissant qu'on a redécouvert, les ciriers de Nancy. Ben, moi, j'ai des coups de téléphone qui n'en finissent plus. J'ai de téléphones épouvantables parce qu'il faut que je téléphone dans les musées les plus étonnants, que je ne connaissais absolument pas d'ailleurs, pour avoir monsieur le conservateur en ayant, s'il vous plaît, le catalogue de l'exposition qui a été il y a 4-5 ans ou 10 ans ou même 15 ans. On a un chartiste qui travaille avec nous. Alors celui-là, il connaît la France entière. Il me déniche des musées. L'autre jour, c'était le musée de l'art antique. Après, ça a été le musée Granet. Enfin, on a fait tous les musées de Lorraine. On a fini par avoir des documents merveilleux, des choses qu'on ne connaissait absolument pas et qui nous montrent que la France a été, mais un trésor, une splendeur, un royaume rutilant de merveilles. Mais il faudrait trois plaisirs de lire pour dire tout ça. Il faudrait un livre, surtout pour la Lorraine, parce que géographiquement, comme elle est placée, elle a une histoire extrêmement complexe. Mais pour la Provence, ça a été pareil. Nous, on en est resté à l'huile d'olive, à la tomate à l'ail et quelques âneries du même genre. Mais c'est inimaginable ce que l'on trouve en Provence. Et on n'avait pas la place de tout mettre. Mais maintenant, on s'attaque à la Bretagne. Alors là, on croule. C'est inimaginable. On va vous raconter comme ça toute la France par province. Et après, on passera à autre chose. Je vous dis ça pour ne pas que vous soyez attristés, parce que je sais que c'est dur de parler de ces choses-là. Mais d'un autre côté, étant critique littéraire d'une part, et le sachant, j'ai le devoir de vous le dire, parce que c'est pas d'une évidence absolue. Ces livres sont très bien faits, et il faut au moins rendre une justice à ces gens-là, c'est qu'ils savent leur métier. Je ne dis pas qu'ils sont... Je fais une parenthèse. C'est pas une digression. Je ne dis pas qu'ils sont automatiquement mauvais. Je lisais l'autre jour un bouquin, alors là, redoutable, sur le comique et l'enfance, et il y a une chose que je subodorais, mais qui m'a été écrite noir sur blanc, à savoir que dans certains livres, il y a des psychiatres qui ont trempé. Parce que c'est trop bien fait, cette manipulation intellectuelle, c'est plus que de la littérature enfantine, c'est plus que de la manipulation, il y a vraiment une connaissance des mécanismes du cerveau en tant que chose que l'on a vue avec les RMI. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a des rayons qui montrent comment le cerveau fonctionne. Bon, alors il est certain que si le psychiatre, il est freudien ou marxiste, il ne peut pas avoir la même notion de ce qu'est un bon livre d'enfant que nous, ça va de soi. Et évidemment, on ne peut pas non plus le deviner. Mais ça ne veut pas dire que certains auteurs qui ont écrit des horreurs, sont automatiquement à jeter complètement. On en parlait tout à l'heure à table. Vous avez des auteurs qui sont capables d'écrire un bon livre et un mauvais après, ou vice-versa. Vous avez des bons livres partout et pratiquement des mauvais livres partout. C'est nous qui le recherchons. Nous, on travaille avec 140 maisons d'édition, ce qui est un énorme travail. Et on est arrivé, notamment dans ce numéro-ci, ça, on est assez fiers, hein. On a réussi à vous trouver une bonne quinzaine de livres d'adultes bons, des réimpressions, des livres complètement oubliés, le journal parisien de Thackeray, qui est un excellent auteur anglais, des livres d'humour, des livres drôles, quelques romans policiers pour quand on a mal aux dents, etc. Et on a réussi à faire quelque chose qui se tient bien, et notamment... Je ne pouvais pas tout porter parce que c'est très lourd. En plus, j'ai du mal à parler, j'ai eu une trachéite. Ça me gêne beaucoup. Sinon, j'aurais pu vous apporter aussi, pour vous consoler, des bons livres. Parce qu'il y a des livres d'enfants qui sont de ravissants bons livres. Il y en a 16 dans ce numéro-là, des albums qui sont exquis, qui sont de nouveauté et qui sont d'une beauté plastique ou d'un charme ou d'une gentillesse. Je pense à l'oiseau de miel pour la beauté. Je pense à Sean, le léopard des neiges, pour également la beauté des paysages. Je pense à l'histoire de la petite baleine, pour la gentillesse de l'histoire. Il y a des histoires qui sont charmantes, qui sont neuves, qui sont nouvelles, qui introduisent l'enfant dans la vie de tous les jours de notre époque. Il y a des documentaires qui sont admirablement bien faits. Je ne veux citer aucune maison d'édition, bien sûr, mais vous avez des documentaires qui sont superbes. C'est vraiment du travail très beau. On a avec nous un chimiste qui travaille, qui est un scientifique. C'est à lui qu'on passe tous ses livres pour enfants. On a eu des livres, il m'a dit, moi j'aurais voulu avoir ça quand j'étais petit. Pas seulement au point de vue beauté plastique, mais au point de vue qualité de l'explication, pour savoir comment la Terre marche, comment se passe ceci, comment se passe cela, comment ça se passe dans les astres, etc., qui sont des compléments d'études remarquables. Et ma foi, là, comme on est dans le domaine de la science, eh bien, on peut comprendre qu'éventuellement, on ne parle pas de Dieu. Dans ces... Ça serait préférable si on en parlait. Ça, je vous l'accorde. Mais disons que dans le domaine de la discipline directement scientifique, on peut expliquer comment fonctionne la Terre ou le ciel. Pas de bourde et qu'on ne descend pas de je ne sais pas quelle algue ou autre originalité, c'est admissible. Je préfère autre chose, mais c'est admissible. Et on peut arriver à sortir de cette affaire-là. J'ai parlé longtemps, il est 9h20, donc ça fait les trois quarts d'heure réglementaire, si je puis dire. J'ai dit beaucoup de choses. Ceux qui veulent s'abonner, vous trouverez là-bas à la sortie cette revue qui donc est trimestrielle et qui paraît quatre fois par an. On est parfois en retard, je l'avoue, mais j'ai tout le temps des ennuis. J'ai toute mon équipe qui est malade. Moi, je ne vais aller pas tellement mieux. Et j'avoue que pour le numéro de Noël, je crois qu'il va être en retard. Mais dans un cas comme ça, on envoie un papier, souvent un recto verso, en disant voilà ce qui vient de paraître, analyse à venir dans trois semaines. Mais vous, évidemment, les livres de Noël, vous les voulez avant Noël et pas au 15 janvier, bien sûr. Mais il y a des moments, j'ai des circonstances qui m'écrasent complètement. Je ne peux pas réagir contre. Sinon, cette revue est donc trimestrielle. Normalement, elle paraît en octobre. Ça, c'est le numéro d'octobre. Pour Noël, à Pâques et au moment des grandes vacances. L'abonnement est à 150 francs. Vous avez des feuilles d'abonnement volante. Sinon, le numéro, c'est 40 francs. Et avec cela, c'est à mon avis un bon remède pour parcourir toute la littérature, depuis les livres du patrimoine, qui est fait donc par ce chartiste, les petits livres pour les dames, il y a des livres exquis qui paraissent, là je suis obligée de dire le nom parce qu'il y a que chez eux, chez Armand Collin, décoration, il y a des livres qui sont admirables pour ce qui est de décorer sa maison, de faire de la couture d'intérieur, etc. Vous avez le dossier qui vous réapprend la France chrétienne. Ensuite, vous avez les livres d'histoire. Vous avez des... Il n'y en a pas là-dedans, ou très peu. Vous avez quelques livres pour les universitaires. Ça, c'est très particulier, le livre pour universitaires. Si, étudiants et professeurs, il y en a trois. Vous avez romans, essais, nouvelles, humour anglais. Quelques romans policiers. Les bons livres d'enfants. Alors, j'avoue publiquement, car c'est vrai, je ne sais pas qui a fait la boulette, mais elle est faite. Il y a dans les bons livres un mauvais. C'est-à-dire, page 32, vous avez David à Duflair, qui est un mauvais livre, on a mis un papillon en disant erratum, n'est-ce pas, attention, reclassez ça où il faut. Quand vous l'aurez lu, vous verrez que il y a des expressions, ça se dit pas ça. Alors, vous avez des livres à part qui sont bancals, ça va pas, on peut pas. C'est une manière de dire qu'ils sont mauvais, mais vis-à-vis des maisons d'édition, on est obligé d'être extrêmement prudent et choisi sur les termes. Ensuite, vous avez des plaisirs de lire, des livres qui sont franchement mauvais. Et puis, vous avez des albums merveilleux, ça en a une chance folle, tout ce qu'il faut pour Noël. Donc, cette histoire, si vous voulez, de l'implantation des sectes dans la littérature, ça n'a rien d'original, c'est normal. Les arts évoluent. Pour ceux qui aiment la peinture, par exemple, ce qui est plus courant que d'aimer la sculpture, il est certain qu'on ne peint pas comme on peignait du temps de Louis XIV ou du temps de Louis XV. On ne peint pas comme au XIXe siècle. L'art évolue. La façon d'écrire évolue. La façon d'aimer les rapports de couleurs évolue. C'est bien, c'est normal. À condition que l'esprit qui est derrière soit bon. C'est évident. Et il est vrai que nous, catholiques, on a cette espèce de candeur des enfants de Dieu qui on n'imagine jamais que le mal peut être aussi mauvais, d'une certaine façon, puis-je dire. Et on a du mal à imaginer que les gens puissent être aussi subtils et aussi habiles dans leur action. Mais le fait est là. Dieu également permet, et je vous assure que ça tient du miracle, à notre époque, que je puisse par exemple vous fournir, pratiquement il doit y avoir 16 albums bons là-dedans, plus une vingtaine de livres d'enfants bons, ça fait déjà 36, plus à peu près 15 bouquins bons pour les adultes. Croyez-moi, ça représente une très grosse recherche. De toute façon, on s'est trompé une fois en 31 ans, on l'a dit, c'était un livre de guerre, on n'y était pas, donc on a fait le rectificatif. Là, c'est la deuxième fois avec ce livre-là. Mais nous sommes, on ne peut plus honnêtes, pour la bonne raison que la plupart des gens qui travaillent avec moi sont les anciens élèves de l'abbé Laurence. Il y en a un, ça fait 10 ans. Il y en a un autre chartiste, ça fait 7 ans. Julien, ça fait 6 ans. Et la plupart des autres, ça fait 5 ans. Donc, je vous ai longuement exposé mon sujet. Ce qui serait bien maintenant, je vous remercie, vous avez été d'une attention, mais absolument extraordinaire. Hein. Ça, on n'a pas toujours le même genre de public, mais alors vous, chapeau. Ah non, si, c'est vrai, c'est pas de la blague. Je sais pas, Dieu permet qu'ayant plus de voix, vous êtes extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Alors, je suppose que peut-être vous avez des questions à me poser. Bon, tout à l'heure, si vous voulez vous abonner, je serai là avec les feuilles, sinon là-bas. Mais là, pour l'instant, j'aimerais qu'on parle. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce sujet-là ou sur un autre, pourvu que ça aborde, évidemment, la littérature des petits, la littérature des adolescents et la littérature même des adultes. Parce que, croyez-moi, les jeux de rôle pour les adultes, vous avez des science-fiction, ça vaut pas mieux. Alors, je ne sais pas si cette personne, que je ne regarderai pas pour pas le gêner, voudra reconnaître que ces affaires de jeux de rôle, il les a trouvées dans les mains de ses camarades, mais s'il a envie d'en parler, c'est le moment. Bon, pas de... Vous avez certainement des questions. Non, et je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison que j'ai découverte tout à fait par hasard. Autrefois, dans les tout débuts de Plaisir de lire, on se faisait mettre à la porte des maisons d'édition, on n'avait pas le droit d'avoir des services de presse. Les services de presse étant un livre gratuit, ils se disaient, oh, une petite revue, ça n'existera pas longtemps, on va perdre notre temps, je me suis même fait parfois jeter, comme on dit poliment. Et je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je m'en trousse les manches et je ferai ça toute seule. Alors, il y avait heureusement à l'époque, boulevard Saint-Germain, un libre-service chez Hachette. Et les libraires venaient là avec des caddies et achetaient ça par paquet de 50, 100. Alors, avec mon équipe, on y allait à 7 ou 8 et on se donnait chacun une travée, c'était par travée. Alors, on épluchait, on sortait de là, on avait des têtes comme des citrouilles. On passait 3 heures là-dedans, le crayon à la main avec un calepin. Et on relevait, si vous voulez, les titres des livres que l'on voulait acheter à l'époque. Et puis un beau jour, arrive derrière moi, je ne savais pas que j'étais connue apparemment, ou surveillée, j'en sais rien, ou les deux. Et la dame me dit, bonjour madame, je voudrais vous interviewer parce que je fais des grilles de probabilité de vente et je voudrais votre avis. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle me montre, elle avait effectivement une feuille A4 avec des divisions. Et elle m'a posé toutes sortes de questions. Vous, par exemple, vous auriez à écrire des livres, qu'est-ce que vous écririez? Bon, là, je lui ai donné mon avis. Et elle me dit, qu'est-ce que vous lisez le plus? Qu'est-ce que vos lecteurs lisent le plus? Etc., etc. Alors, à la fin, moi aussi, j'ai posé des questions. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette interview extraordinaire? Elle me dit, si, je suis appointée par la maison X et je fais des grilles de probabilité de vente, c'est-à-dire, j'interroge tous les gens qui sont dans le livre et notamment les bibliothèques d'école pour savoir qu'est-ce qui est le plus demandé. Ensuite, je rentre et je donne ça au service commercial. Autrement dit, au service commercial, il regarde que sur, par exemple, mettons, les romans policiers, les tranches d'histoire, les livres d'aventure, la science-fiction, qu'est-ce qui apparaît le plus, qu'est-ce qui se vend le plus actuellement, c'est les livres d'histoire. Donc, quand arrivent les manuscrits, parce qu'il arrive des montagnes de manuscrits dans les maisons d'édition, quand il arrive des manuscrits, on prendra davantage les livres d'histoire. Il y en aura des bons là-dedans. Ce qu'on veut, c'est de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Et on va servir, et c'est là où ça devient compliqué, tous les publics. Vous avez le public communiste, le public libéral, le public marxiste, le public des professeurs, le public des gens qui s'en foutent, le public des catholiques, etc., etc. Donc, ils vont s'arranger pour vendre leurs livres. Et ça s'appelle du marketing. Donc, ils vont sortir à la fois et des bons et des mauvais. Il n'y a pas d'autre explication.
Quelle est votre expérience des livres pour la jeunesse visant à l'initiation aux écritures et à la religion, ou se prétendant telle?
Eh bien, ce seraient justement les livres dont je viens de vous parler. Parce que il y a beaucoup de livres que je ne peux pas citer aujourd'hui. Et vous avez des livres qui sont mais redoutables. J'en parlais avec l'abbé Godard tout à l'heure. Il y a des livres mais qui sont vraiment un appel à la, on oserait presque dire, à la possession. On m'en a envoyé un jour que je n'avais pas demandé. 10 leçons pour devenir une bonne sorcière. Alors il y avait, oui, sous prétexte de rire, il y avait la formule magique pour envoûter sa concierge. La formule magique pour se moquer, voyez, vous riez, hein, ça rentre bien, hein, le rire. La formule magique pour se venger de son voisin du dessus qui avait chassé des canards parce que c'était l'époque de la chasse et que cette petite fille, car c'était une petite fille, avait des goûts très écologiques, etc., etc. Alors ça, voyez-vous, dans le domaine des enfants qui ne sont pas baptisés, qui sont dans des situations de famille divorcées, qui sont ils sont, comme vous dites, comme on disait tout à l'heure, vulnérables. Dans la mesure où ils sont vulnérables, c'est extrêmement drôle, ces jeux. Parce qu'on leur suscite toujours l'idée que s'ils font ce qu'on leur dit, ils auront des pouvoirs. En général, et je ne sais pas pourquoi, c'est le pouce, c'est plutôt ce doigt-là, qui devient rouge et qui devient comme vivant. Alors, la petite fille, souvent c'est les petites filles d'ailleurs, les petites filles sentent que c'est à ce moment-là qu'elles ont le pouvoir, elles vont pouvoir agir. Et puis, bon, ça s'en va. Et il y a toutes sortes de livres qui vous montrent qu'il y a un autre univers que vous ne connaissez pas, dans les murs, quand vous entendez des coups la nuit, quand vous avez l'impression qu'on tire votre couette. Bien sûr, on vous la tire. Mais alors, il ne faut pas être méchant avec ces petits gens-là, parce qu'ils ont des pouvoirs. Et ils peuvent vous donner de grands pouvoirs, mais il faut faire ce qu'ils disent. Toujours la même idée. Donc, si vous voulez, c'est la contre-église, quoi. C'est remplacer la religion catholique, la seule vraie, par des méthodes qui sont dites occultes, qui ont toujours été occultes, mais qui, là, entrent carrément dans le livre d'enfant. C'est comme ça que je verrai la chose. Parce que vous pensez bien que les livres qui vont être libéraux, qui vont être grossiers vis-à-vis de notre Seigneur, on ne les prendra pas, nous, les catholiques. Mais on n'ira pas forcément chercher des choses peut-être plus élaborées. C'est là-dessus qu'il joue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Au sujet de votre premier livre, vous pensez qu'un enfant est vraiment subjugué par cette histoire-là de l'oiseau ? Nous, dans notre jeunesse, nous avons lu beaucoup de livres de contes de fées, de choses comme ça, mais jamais un seul moment, on a pensé que c'est vrai.
C'est très juste ce que vous dites. C'est très juste.
Ça,
oui,
c'est
très juste.
Et
la seule chose qui a changé, si vous voulez, et ô combien, c'est la société qui nous entoure. Donc, je suis très étonnée. Parfois, je demande, comme ça, mine de rien, dans un grand magasin, je demande, oh, ce livre, il est affreux, mais comment ça se fait que vous l'avez? Ça ne doit pas se vendre. Oh, mais pas du tout, me dit la dame, ça se vend très très bien. Les enfants en raffolent. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui leur plaît? Ah, mais vous comprenez, c'est étrange, c'est extraordinaire, il arrive des choses mystérieuses, on va dans des souterrains, ça leur plaît, quoi. On vit dans un univers où l'enfant n'a pas beaucoup de participation à part ce qu'on lui demande de faire. Donc, très vite, il entre dans un autre univers. Et c'est arrivé dans ma famille, ça. J'avais mon petit-neveu, et ça, c'est de ma faute, j'ai fait un gros mea culpa, parce que je ne me rendais vraiment pas compte à l'époque de ce que je faisais. Et je lui avais offert un petit bouquin qui s'appelait « Flamme, cheval de cirque ». C'était l'histoire d'un petit cheval de bois qui en avait assez, qui quittait le cirque parce qu'il en avait assez. Puis un beau jour, on arrive, et puis il n'y avait plus de marque à la maison. Alors on cherche partout, pas de marque, la famille s'affole. Ils habitaient en dehors de Paris, et il y avait de la prairie, du bois par là, etc. On l'a retrouvé sur son cheval de bois, avançant péniblement. Alors, on lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je fais comme flamme, je m'en vais. Il était complètement entré dans son livre. Il y a une énorme question de contexte social. Je rappelais tout à l'heure que quand nous étions petits, moi entre autres, on était affolés par Blanche-Neige. Ça avait été écrit dans les journaux, les gens hurlaient dans le cinéma, quand arrivait la méchante sorcière. Pas plus tard que tout à l'heure dans le TGV, il y avait une petite fille qui visiblement apprenait à lire avec sa maman, ou je ne sais pas, je ne voyais pas le visage, mais j'entendais certains mots. Et il y avait notamment plusieurs fois le mot sorcière qui revenait. Donc elle apprenait à lire avec un livre où il était une question, une sorcière qui ne sait je ne sais pas quoi, étant donné que ce n'était pas très audible. Mais j'ai entendu plusieurs mots comme ça. Il y a le contexte. Ils sont sensibilisés à. Vous voyez ce que je veux dire? Les goûts ont changé. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Vous avez montré trois livres, là.
Oui.
Dans lesquels il semblerait qu'il y a un plan qui se déroule.
Oui.
Comme vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que les personnes qui filment ça sont conscientes
Peut-être téléguidées, hein, parce que c'est drôlement bien fait. Peut-être téléguidées. De toute façon, il y a une chose que je sais de source sûre. C'est que quand on se fait éditer dans une maison d'édition, quelle qu'elle soit, on passe sous les fourches codines de la personne qui vous accepte. Il faudra supprimer tel passage ou rajouter telle autre chose. Vous ne voulez pas? Oh, ben oui, je comprends très bien. Mais voyez-vous, monsieur ou madame, votre livre n'a absolument pas le style de la collection. Et au revoir. Voilà. Il y a tous les cas de figure. Et il y a le goût d'une époque. Il y a le goût d'une époque. Il arrive quelquefois qu'on ait sous la main des livres qui vous font pleurer de rire, alors qu'à l'époque, ils n'étaient pas du tout écrits pour ça. Je me souviens d'avoir eu, un jour entre les mains, ça devait être une réimpression dans un format poche quelconque, des contes oubliés du 18e siècle. Il y avait la toute simple histoire d'un matou qui avait été tout simplement castré. Et on vous racontait ça comme une tragédie grecque. Mais j'en pleurais de rire dans le livre. C'était une façon de dire qui n'était plus du tout visible maintenant. Ah, imaginez la catastrophe de sa pauvre épouse, c'est à peu près sur ce ton-là. Enfin, Andromaque n'était pas loin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Sensibilité autre, autre manière de se vêtir, autre manière de sentir. Télévision qui influe tout, cinéma, ça crée un bain. Un bain, on est sensibilisé à. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien ce que vous me demandez là. Il y a encore beaucoup de choses éventuellement à dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est toujours un petit peu en marge, si vous voulez, la bande dessinée. C'est pour faire un bon lecteur, la bande dessinée, c'est pas le rêve, pour la raison suivante. C'est que la bande dessinée vous propose déjà une abstraction, un schéma tout fait. Vous avez à voir une image, à visualiser une image, puis il y a un petit peu de texte. Donc c'est pratique pour le cerveau, c'est facile, c'est pas fatigant, c'est agréable, ça va vite. Et alors on parcourt très vite une aventure merveilleuse. Je sais que dans les bibliothèques, on détestait les BD. Et pour des lecteurs de BD qu'on nous envoyait et qui ne voulaient pas lire de livres parce que c'était justement trop fatigant, on avait trouvé une seule solution, c'était de lui dire, écoute, je vais bien te donner une BD, mais à condition que tu me prennes tel livre qui est formidable. On savait qu'il l'était, sinon on ne l'aurait pas fait. Et tu me raconteras le livre. Et à ce moment-là, je te redonnerai une autre BD avec un autre livre. Et on essayait de les sortir de là. Mais, si vous voulez, ce sont deux types d'éducation différentes. L'éducation à la BD, c'est quelque chose de rapidement assimilé. L'éducation à la lecture, c'est l'éducation à comprendre la progression d'une histoire, l'esprit d'une histoire, à pouvoir apprécier, voire savourer un vocabulaire, approfondir le français, découvrir des personnages, savoir quel est le héros qu'on préfère, celui qu'on n'aime pas, pour quelle raison. Quand on a des parents ou des professeurs, surtout les professeurs qui font ça d'ailleurs, qui sont capables de vous initier à la lecture, c'est merveilleux. Moi, je n'aimais pas lire quand j'étais enfant, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai eu un merveilleux professeur de littérature qui était une religieuse, sœur Marie-Louise, et elle nous a littéralement mais initié à la beauté de la langue française. Mais on en redemandait. Elle nous avait fait comprendre, quand on est petit, on peut pas. On a besoin de quelqu'un pour vous montrer, pour vous... Quand vous voyez un enfant qui marche, vous êtes là, viens. Mais quand vous les lâchez dans un livre, surtout s'ils ont appris par la méthode globale, les pauvres, ils sont perdus. Alors si vous leur donnez une BD, ben vous aurez un lecteur de BD. Et si vous leur donnez des livres, ben vous risquez d'avoir quelqu'un de plus... Et je vous signale une particularité du lecteur, hein, ça, parce qu'on s'en aperçoit trop tard. Les lecteurs sont gens extrêmement exigeants et susceptibles. Et si vous coupez l'élan d'un enfant avec un livre qui ne lui plaît pas, si vous lui fermez subitement une bibliothèque qu'il aimait, ou si vous avez un changement brusque, vous êtes capable de couper net son goût pour la lecture. Et il passera à autre chose. Et ça, c'est connu, hein. Je vous le dis parce que, disons que j'ai travaillé dans les bibliothèques, donc je le sais. Mais c'est à suivre, hein. C'est vraiment à suivre. Surtout à un âge où on évolue, où on grandit, où on change. On change même parfois d'endroit, vu que le travail maintenant est un petit peu itinérant parfois. C'est vraiment à suivre et à cultiver comme une petite fleur précieuse, comme la rose embêtante du petit prince, qui demandait toujours des petits paravents. C'est à peu près pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question parce qu'on aborde quelque chose que je n'ai pas abordé. C'est la notion de genre. La notion de genre, c'est-à-dire le genre, en fait, c'est le mot s'explique lui-même. Le genre de livre que vous allez trouver en histoire. Le genre histoire, vous ne trouverez que des livres d'histoire. Le genre à géographie, vous ne trouverez que des vies de saints. Le genre documentaire, vous ne trouvez que des explications de comment marche le monde. Le genre roman policier, vous allez trouver une histoire de crime. Alors, c'est certainement pas très brillant, hein, une histoire de meurtre, certainement pas. La seule chose qu'on puisse éventuellement demander, c'est que au moins le meurtrier soit trouvé, que les méchants soient punis et que les bons soient disculpés. Alors, les genres littéraires, c'est comme les vêtements, c'est comme les nourritures, que l'on mange tous les jours. Il y a l'heure du matin, il y a le déjeuner à midi, il y a l'heure du thé et il y a le repas du soir. Et on n'attend pas la même chose de ces repas-là. L'heure du thé, ça peut être les toasts, les gâteaux. Quand on est un peu triste, ça peut faire passer une bonne soirée et vous remettre le moral en route. Avec les livres, c'est pareil. Je dirais que le roman policier, ça peut être une tolérance à notre époque. C'est pas un rêve. Ça peut être une très intéressante étude de mœurs. Mais c'est à lire quand même avec précaution. Et puis, il y a un âge. Un adulte peut très bien lire. Vous savez, on a tous eu à un moment des extractions dentaires particulièrement douloureuses ou des moments où vraiment on a envie, parce que ça ne va plus du tout pour une raison X ou Y, de se changer les idées. Et vous avez, c'est vrai, des romans policiers qui sont tout à fait passionnants. Maintenant, moi, je remplacerais plutôt le genre roman policier par un nouveau type de livre que je viens de découvrir, grâce à notre scientifique d'ailleurs, et je sais qu'il y a pas mal de catholiques qui les livrent, ce sont les livres de Tom Clancy. Les livres de Tom Clancy sont des livres que l'on appelle les thrillers politiques. Il y a un côté policier, parce qu'il y a toujours du sang quelque part, mais en revanche, ça vous ramène au réel au lieu de vous en détourner. Or, il faut savoir qui est Tom Clancy. Tom Clancy est un homme qui avait été demandé, je ne sais plus si c'est par Reagan ou par Clinton, pour faire partie, c'est réel, hein, c'est pas une invention, pour faire partie de ces cellules très particulières qui existent vraiment et qui sont chargées de faire un dossier dans les 48 heures pour le président des États-Unis ou d'ailleurs, quand il y a une catastrophe et qu'on ne veut pas déclencher une guerre mondiale. Exemple, il y a un attentat quelque part, à Israël, en Israël, à Séoul ou ailleurs, et ça n'est pas revendiqué. Alors, la nation qui a été attaquée doit se défendre. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Mais que faire? D'abord, à qui on a affaire? Si on a affaire à un Asiatique, à un Chinois, à un homme de Séoul, si on a affaire à un Américain, à un Européen ou à un Africain, ce n'est pas la même psychologie. Alors, il faut lui marcher sur les pieds, mais pas suffisamment pour qu'il sorte le fusil de guerre. Mais quand on est président des États-Unis ou d'ailleurs, on n'a pas le temps de faire ce travail-là. On a donc besoin d'avoir des spécialistes qui soient extrêmement à la pointe de tout le, et je vous jure que c'est raffiné, de tout le raffinement psychologique pour faire le portrait, c'est le cas de le dire, robot du personnage. Pour savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, comment on va lui parler, quels sont ses points faibles, quels sont ses points forts, etc., etc. Et en 48 heures, il faut que la liste de tous les gens à contacter soit faite et ça doit être sur la table du président. Alors là, je suis en train de vous raconter Obcenter 3. Ça commence, on est à Séoul, il va y avoir un discours politique, il y a le héros principal et sa jeune femme, ils sont très amoureux l'un de l'autre et mariés, tout ce qu'il y a de plus marié. D'ailleurs, chez Tom Clancy, on est marié, on ne trompe pas sa femme et on s'occupe de ses enfants quand ils sont à l'hôpital. Ça, on ne voit pas ça dans les romans policiers. Et en plein milieu du discours politique, boum. Alors, du sang partout, des dizaines de morts, dont l'épouse du héros principal, qui va en être malade jusqu'au fond du cœur, mais qui continuera son devoir d'État, c'est-à-dire de servir l'Amérique. Alors, Obcenter, ça s'appelle comme ça, se met en route. Et on va voir à travers tout le livre comment à Obcenter on s'y prend pour qu'en 48 heures, la question soit réglée sans casse. Moi, j'y ai perdu mon latin, hein, parce que vraiment, j'y comprenais rien. Ça s'appelait Séoul, 8h20. Ensuite, Indianapolis, 8h25. Après Paris, 8h42. Mais ils se foutent de nous ou quoi? Mais j'y comprenais rien du tout. J'avais des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits. Qu'est-ce que c'est que cette littérature? C'est écrit en bon français, d'accord, et encore bon, juste, mais ça va. Mais enfin quoi? Où est l'entrée en matière? Où est le corps du sujet? Où est la conclusion? Mais j'étais complètement perdue. Or, en fait, tout à fait à la fin, il ramène toutes ces billes ensemble, et en l'espace de quelques lignes, hop, tout est réglé, et ça s'arrange. Alors, c'est passionnant. Parce que ça vous ramène au service de l'État, ça c'est du réel, ça vous ramène à comment on se fait, comment on se débrouille pour arriver à la fois à servir le président, à aller voir son fils qui a l'appendicite, qui est à l'hôpital, et à donner un coup de fil à sa femme pour la rassurer. Comment est-ce qu'on fait pour être courageux sans être téméraire, imbécile, et se mettre dans des situations où on risque de mourir à tous les coups. Et tout ça c'est raconté et ça calque le réel. Donc ça, ce sont des lectures, je vous jure que vraiment, vous n'entendez pas le téléphone quand vous êtes dedans, vous demandez vraiment ce qui va se passer, mais c'est ça et ça y est. Je connais des quantités de familles catholiques qui attendent le suivant Tom Clancy. Alors, roman policier, une fois de temps en temps quand on a mal aux dents, mais plutôt ce genre-là. Et vous trouvez ça dans les grandes surfaces. Hein. D'ailleurs là, on doit avoir Obcenter 3 ou 4, je ne sais plus. Voilà ce que je dirais pour les romans policiers. Il y a une notion de genre dans les livres, il ne faut pas oublier ça. Quand on a mal aux dents, on n'ira pas chercher les mémoires de Saint-Simon qui va vous raconter les merveilles des catastrophes et des cancaneries et des méchancetés qui se sont faites à Versailles. Vous pouvez peut-être lire, si vous n'avez pas trop mal aux dents et que ça fait pas mal de rire, vous pourrez peut-être prendre de l'humour anglais, vous pouvez peut-être vous absorber dans une histoire extrêmement compliquée en vous demandant comment on va sortir de là. Et ensuite, avec un peu d'air feralgan et un bon livre, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de genre. très important. C'est pas parce qu'on est catholique qu'il faut être déconnecté du réel, bien au contraire. Alors un peu, mais pas trop. C'est comme les BD. Les BD, moi j'avoue que certains soirs, pendant ma trachéite, j'aurais bien lu un Tintin. Tintin et Milou, ça m'aurait changé les idées. Voilà, on a tous eu un moment, on a besoin d'un Tintin et Milou, d'un, je sais pas moi, d'un... Comment il s'appelait là, les Schtroumpfs, ou quelque chose comme ça. Il y a des heures pour tout, de même qu'il y a des vêtements d'hiver et des vêtements d'été. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pour n'importe quel livre, mettons les romans policiers dont vous parlez.
Oui.
Moi, je peux en lire des quantités, ça ne me fait rien.
Alors ça, c'est encore autre chose. Voilà, ça dépend du lecteur. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Ça dépend du lecteur. Il y a des gens qui peuvent lire des trucs incroyables. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. De l'utilité, je dirais, en ce qui concerne les enfants ou les adolescents, surtout les adolescents, dans ces cas-là, de suivre les lectures, parce que vous avez les deux cas. Moi, je me souviens avoir eu autrefois, il y a 20 ans, une collaboratrice, elle se tordait de rire dans les livres d'épouvante. Moi, je me réveillerais la nuit, je ne pourrais pas lire ça, c'est pas possible. Ça la faisait pleurer de rire. Des histoires abominables de squelettes qui traversaient du truc absolument affreux. Mais elle en pleurait, elle est absolument... Non, écoutez, je regrette, moi je ne mets pas ça dans le plaisir de lire. C'est extrêmement malsain, mais c'est tordant tellement c'est gros. J'ai peut-être pour vous, mais pour l'habituel personnage qui lit plaisir de lire, non, on ne met pas ça, ça ne va pas. Ça va pas. Mais ce que vous dites est très vrai. Il y a des gens qui peuvent lire pratiquement n'importe quoi. Moi, j'avoue même que pour mon métier, j'ai mis un certain temps, très long même, à m'y faire, hein, parce que certains livres, je me réveillais en hurlant la nuit, et ça ne plaisait pas trop dans la famille, ce que je comprends, parce que je trouvais ça abominable. Puis finalement, je m'y suis faite. Il y a une manière de lire les livres, si vous voulez, on bloque la sensibilité, et on regarde ça avec une loupe absolument d'inquisiteur, dirais-je. Bon, alors ça ne s'avale pas de la même façon, mais il y a des livres qui sont très durs. Écoutez, si d'aventure vous n'avez pas d'autres questions, oui.
En somme, il faudrait que chacun voit quel est le type de livre qu'il ne faut jamais lire et le type de livre qui s'est.
Exactement. Voilà. Oui, alors si on s'y retrouve, parce que quelquefois vous avez un bon livre qui vous donne un bon choc, vous n'y revenez pas deux fois. Ça s'était passé autrefois dans le milieu de la cité catholique. Une famille à la tête carrément de la cité catholique, et des enfants extrêmement surveillés. Et à l'époque, on faisait des jeux qui s'appelaient les tables rondes. Et un jour, quelqu'un avait proposé un très bon roman policier. C'était le procès Bellamy, c'était les minutes du procès. Et il y en a une qui elle avait 14-15 ans. Elle est devenue mais blanche comme du lait. Et elle a refusé d'accepter de jouer cette table ronde. Alors la dame et moi, on a trouvé que c'était bizarre. Et à chaque fois qu'on parlait roman policier, à chaque fois, on avait le même résultat. Alors on a trouvé que c'était suffisamment étrange dans une famille aussi précautionneuse de ses enfants. Et on a voulu savoir ce qui se passait. Alors, elle qui avait... Moi, je n'ai pas d'enfant, mais elle en avait 7. Donc, elle avait l'habitude un peu de manier la mentalité des jeunes. Et elle l'a coincée jusqu'à ce que l'autre se confesse. Et alors, elle a fini par avouer, ça se passait à Versailles, qu'elle en avait plein le dos d'être surveillée par ses parents pour ceci, pour cela et pour autre chose, qu'elle avait voulu faire œuvre d'indépendance et qu'elle avait acheté... Elle avait acheté, ça s'appelait la série noire à l'époque, un roman de série noire à la bibliothèque, à la librairie de Versailles. Là, il y a toujours un kiosque à journaux. Le kiosque à journaux de Versailles, à la gare, pour se prouver qu'elle était indépendante. Et on n'a jamais pu lui faire dire ce qu'il y avait dedans. Jamais. Elle avait reçu le choc de sa vie, et je vous jure qu'elle n'a pas dû, elle a pas dû reprendre souvent les romans policiers dans sa vie. Hein. Et une famille extrêmement connue, et on n'aurait jamais cru ça. Trop surveillée, donc je suis moi et je fais ce que je veux. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, étant donné qu'il est 10h15, eh bien, je propose que ceux qui veulent s'abonner viennent vers moi ou à la table là-bas, ou je ne sais pas, peut-être que Monsieur l'abbé veut dire quelque chose, ou... Vous avez l'air absolument écrasé, je suis très inquiète, parce que c'était pas du tout le but de la réunion, hein, faut pas croire. Bon, il y a de quoi être impressionné, mais je vous ai déjà dit qu'il y a d'autres livres, quoi. Il y a des livres très charmants. Et il y a des réimpressions délicieuses, on est en plein, je ne sais pas pourquoi, en pleine réimpression des livres anglais. Pour les dames qui cherchent toujours des livres, on a du mal à en trouver. Vous avez des livres de Jane Austen qui sont charmants. C'est très joli, ça vaut, vous avez 7 livres pour 150 francs. Vous avez les en collection Omnibus, Vous avez aussi 7 livres pour 150 francs avec les réimpressions de Woodhouse, on en pleure de rire dessus. C'est une bonne mise en boîte du ridicule des gentlemen d'entre les deux guerres qui étaient incapables de faire autre chose que de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre comme couleur de flanelle par rapport à la couleur du temps, et c'était les valets qui les menaient par le bout du nez. C'est très très drôle, c'est très gentil, c'est d'une fraîcheur. On se demande comment elle a pu écrire des trucs pareils. Il y a des trucs délicieux, moi je dis ça pour vous monter le moral. Vous avez des enfants de 15 ans qui pourront beaucoup s'amuser à lire du Woodhouse. Moi j'ai un de mes collaborateurs qui est au complet incompliqué dès qu'il s'agit d'un livre d'histoire de l'art, dès qu'il y a un Woodhouse, hop, c'est pour lui. Les histoires de Jeeves, J-2-E-V-E-S, sont très très drôles. Vous trouvez ça en presse pocket à 35 francs. Non, il y a des bons livres, mais il faut les chercher, c'est tout. Là on doit en avoir quelque chose comme 15 ou 16 pour les adultes. Là, c'est vraiment un coup de maître, parce que vraiment, on n'en a jamais eu autant. L'album parisien de William Makepeace Thackeray, c'est une description de ce qui se passe quand un Anglais arrive en France dans les années 1830, c'est tordant. Oncle Fred et compagnie, ça c'est justement, c'est du Woodhouse. Vous avez 7 livres en un seul pour 150 francs. Journal d'un touriste de Jérôme K. Jérôme, tout le monde connaît 3 hommes dans un bateau. Bon, ben là, on a la chance d'avoir Journal d'un touriste. Hobbs & Shaw 4, acte de guerre, je viens de vous en parler. Alors là, on a 3 romans policiers. 2. Un meurtre chinois, crime souterrain, et une vie de chien, c'est pour les gens qui aiment les bêtes. C'est l'histoire d'un chien qui a été malheureux, qui a été pris par un maître qui ne l'est plus, et qui est plus malheureux, et qui nous raconte sa vie, c'est gentil comme tout. Ça se lit dans le train, c'est enfantin. Non, il y a des bons livres, rassurez-vous. Il y a des bons livres, des livres écrits maintenant, des livres modernes, des livres propres, des livres sains, S-A-I-N-S, des livres quelquefois très drôles, et on peut arriver quand même à vivre. C'est même miraculeux, dirais-je, parce que le cinéma, on ne peut plus y mettre les pieds, et on a une chance folle d'avoir encore de temps en temps des livres qui sont lisibles. Voilà, ben écoutez, il est 10h10, je vous propose de vous lever, à moins que monsieur l'abbé veuille dire quelque chose.
Non,
d'accord, très bien, voilà, alors je suis là si vous en voulez.
Thank you.